Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, l'antenne vous appartient comme tous les jours à cette heure-ci. Vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la rédaction d'RFI, avec les journalistes de Radio France Internationale, nos experts ici à Paris, nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde. Vous connaissez le principe, il vous manque des clés, des repères pour comprendre tous les sujets que nous traitons dans nos différents journaux. Et bien surtout, n'hésitez pas, appelez-nous, on est là pour ça, pour vous répondre chaque matin. 33 9 693 693 70, vos questions également sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission, RFI appelle sur l'actualité, sans oublier, évidemment, de nous indiquer un numéro de téléphone afin que nous puissions vous rappeler. Dans 30 minutes, notre débat du jour sera consacré aux violences xénophobes qui secouent en ce moment l'Afrique du Sud. Depuis le début du mois, Durban est le théâtre d'attaques racistes visant principalement des ressortissants africains, victimes d'agressions physiques et de pillages. Ils sont éthiopiens, somaliens ou encore congolais et ils sont accusés par une partie de la population et même par certains responsables de la classe politique d'être responsable de la hausse du chômage et de la criminalité. En tout cas, il a fallu 6 morts pour que le président Jacob Zuma réagisse et condamne fermement ces violences xénophobes. Alors que vous inspire la récurrence de ces attaques racistes? On a encore en mémoire les événements de début d'année à Soweto, à Johannesburg, les violences de 2008, 60 morts, aucune condamnation depuis. À chaque fois, ce sont des attaques racistes. Quelle image vous renvoie la nation arc-en-ciel? 33 9 693 693 70. Et vous êtes un certain nombre à nous appeler et à témoigner de la situation en Afrique du Sud. Donc nous vous donnerons évidemment la parole. Ce sera dans une trentaine de minutes. D'abord donc vos questions. Anastasia Bécu, qui est journaliste au service international d'RFI, est déjà dans ce studio. Bonjour Anastasia.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. Philippe nous appelle de Lomé. Bonjour Philippe.
Bonjour Juan, bonjour Anastasia.
Vous êtes à Lomé, donc au Togo. Vous avez des inquiétudes. Vous avez des questions concernant l'inquiétude des pays baltes.
Oui, il y a un an, la Russie a envahi l'Ukraine. Et selon les recherches que j'ai faites, les pays baltes seraient la prochaine cible. Alors, je voudrais savoir d'abord quel serait l'intérêt. Est-ce que véritablement les pays baltes ont quelque chose à craindre de la Russie? Et ensuite, quel serait l'intérêt de la Russie à envahir les pays baltes?
C'est vrai que l'invasion de la Crimée par la Russie et le soutien de Moscou aux séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine inquiètent de plus en plus les pays baltes, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. Anastasia Bécquio, l'inquiétude, on le voit bien, est réelle dans ces trois pays.
Oui, effectivement, parce que ces pays redoutent d'être les prochains sur la liste après la Crimée, avec quand même toutefois des différences de perception selon les pays. En Estonie, par exemple, seuls 5% de la population pense qu'il est possible que la Russie puisse mener une opération militaire. À l'inverse, en Lituanie, l'angoisse est très importante. Le ministère de la Défense a même fait distribuer une publication qui donne des consignes pratiques sur la marche à suivre en cas d'hypothétique attaque.
La Lituanie qui a d'ailleurs rétablit le service militaire pour une période de 5 ans.
Effectivement, ce qui accroîtra le nombre de militaires qui sont aujourd'hui au nombre de 8000 dans ce pays. Et puis il y a eu des déclarations de la présidente lituanienne juste après justement le rattachement de la Crimée qui disait que le comportement de la Russie constituait une menace directe pour la sécurité régionale et qu'il fallait donc prendre des mesures. Dans ces trois pays baltes, on est très inquiet des manœuvres militaires russes qui se sont déroulées très récemment dans les zones proches de ces trois États. On y voit même une sorte de provocation. Ces derniers mois, on a vu des incidents se multiplier entre les militaires russes et les forces de l'OTAN en Europe. Il y a eu de nombreuses violations de l'espace aérien par les avions de l'armée russe dans les pays baltes, mais aussi dans des pays comme la Finlande.
Ouais. Les pays baltes ont-ils raison de s'inquiéter?
Alors, si on regarde de plus près, ces pays ont effectivement quelques raisons d'être inquiets. Comme l'Ukraine, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie partagent une frontière avec la Russie, ce sont d'anciennes républiques de l'URSS. Elle compte d'importantes minorités ethniquement russes. Il y en a 25% en Estonie, 26% en Lettonie. Alors un peu moins, beaucoup moins d'ailleurs, 6% en Lituanie. Mais bon, ces russophones sont des personnes qui regardent évidemment la télévision russe, qui peuvent être sensibles aux discours qui sont venus de Moscou. Et puis il y a aussi un rapport qui est parfois tendu à la langue russe. Après l'indépendance en 1990, le russe a parfois été banni des institutions. La minorité russe s'est retrouvée parfois à l'écart. Par exemple, en Lettonie, 15% de la population appartient à la catégorie de ce qu'on appelle les non-citoyens. Ils n'ont pas accès à certains emplois, ils n'ont pas le droit de vote. Et c'est une situation que les télévisions russes dénoncent très fréquemment. Et puis, il y a l'enclave de Kaliningrad. C'est une région russe qui est coincée entre la Pologne, la Lituanie et la mer Baltique et qui est une vraie source d'inquiétude puisque des missiles opérationnels et tactiques Iskander ont été déployés par la Russie, tout ça le long de la frontière russe avec la pays balte. Alors c'est présenté par les Russes comme une réponse au projet de bouclier antimissile de l'OTAN en Europe, mais évidemment ça fait très peur.
Ah, et Philippe nous demandait quel est l'intérêt pour la Russie d'intervenir dans les pays baltes.
Alors moi j'ai l'impression qu'elle aurait quand même plus de désavantages que d'intérêts. Les risques réels d'une attaque armée classique contre ces trois pays baltes et même d'une guerre hybride comme on le voit aujourd'hui dans l'est de l'Ukraine semblent minimes. La plupart des experts estiment que la Russie a d'autres priorités que d'envahir les pays baltes. Alors, c'est vrai aussi que Moscou cultive l'idée de la défense du monde russe, qu'elle n'a pas abandonné l'idée d'accroître la sphère d'influence russe. Au-delà de ça, la Russie a quand même pas grand intérêt à se lancer dans une conquête militaire, d'autant qu'elle a noué des liens économiques importants avec ces pays. Les compagnies russes ont investi massivement dans les banques ou encore dans le secteur de l'immobilier dans ces pays. Et puis, on peut dire que le contrôle des côtes estoniennes, lettonnes et lituaniennes ne lui apporterait rien de fondamental. En plus.
Ouais, donc plus de désavantages que d'intérêts. Donc dans ce cas, pourquoi toute cette agitation militaire ?
Alors la Russie veut quand même faire comprendre qu'elle est une puissance dans la région, qu'elle continue de compter, même si les pays baltes sont entrés dans l'Union européenne, qu'ils ont rejoint l'OTAN, alors que la Russie avait dans le passé obtenu la garantie que l'OTAN ne s'étendrait pas plus à l'est. Les Russes veulent aussi éviter qu'il y ait une présence armée permanente de l'OTAN sur le territoire des pays baltes, ce qui a notamment été réclamé par l'Estonie. Aujourd'hui, il y a 150 soldats de l'Alliance transatlantique qui sont stationnés en Estonie, mais de manière provisoire, puisque un accord a été signé entre la Russie et l'OTAN en 1997, et cet accord interdit le déploiement des troupes permanentes. Et puis, ces démonstrations de force russe, ces provocations, peuvent aussi être analysées comme destinées à l'usage interne. C'est un message que l'on envoie à l'opinion publique russe, nourri ces derniers temps de patriotisme, de discours sur la grandeur de la Russie.
Ouais, on me dit que Philippe a une autre question. Philippe Allomé.
Oui, comment ces pays baltes peuvent-ils se défendre si éventuellement il y aurait une attaque?
Enfin, ça reste très hypothétique, voilà. D'après ce que vous nous avez dit jusqu'à présent, Anastasia.
Pour l'instant, ça reste très hypothétique. Alors, la grande différence de ces pays avec l'Ukraine, c'est qu'ils sont membres de l'OTAN et par conséquent, ils sont en théorie protégés par l'article 5 de la charte de l'Alliance Atlantique qui prévoit qu'en cas d'agression contre un État membre de l'organisation, tous les autres peuvent venir à sa rescousse militairement, ce qui peut avoir un effet dissuasif pour Moscou. On a vu que ces derniers temps, ces pays ont revu leur politique de défense, ont augmenté leur budget militaire, vous parliez de la conscription tout à l'heure. Tous ces pays se sont lancés dans les achats d'armes, de matériel aux Occidentaux. Et puis, pour rassurer les dirigeants de ces pays, les États-Unis ont entamé le 9 mars, pour une durée de 3 mois, une opération militaire conjointe de l'OTAN avec ces 3 pays baltes. C'est une opération qui implique quelques 3000 soldats américains. Et puis, parallèlement, l'OTAN a renforcé la défense de son flanc oriental avec la création d'une nouvelle force de réaction ultra-rapide de 5000 hommes et la création d'un centre de commandement en Bulgarie.
Voilà, l'OTAN qui veut rassurer les pays baltes. On a bien compris que le scénario d'une agression militaire russe dans ces pays paraît peu probable. Autre question toujours concernant le dossier ukrainien. Florentin, bonjour.
Bonjour, monsieur Ron.
Vous nous appelez d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous vous écoutons.
Oui, bonjour, auditeurs de RFI. Jusqu'à présent, on constate l'incapacité de l'armée ukrainienne à compter l'avancée des troupes séparatistes. Monsieur Poroshenko a appelé à l'envoi d'une force militaire internationale en Ukraine. Alors ma question est de savoir quels sont les risques aujourd'hui d'une internationalisation du conflit ukrainien.
Alors, il réclame effectivement l'envoi d'une mission de maintien de la paix, hein, le long de la frontière russo-ukrainienne, mais ça fait des mois, Anastasia Bekio, que le président Porochenko demande une aide militaire, il demande des armes aux alliés, des alliés qui sont finalement divisés. Est-ce qu'on risque véritablement une internationalisation de ce conflit ?
Alors, en l'état actuel des choses, ce risque est assez faible, là aussi. Beaucoup dépend évidemment du comportement de la Russie, qui mène une guerre qualifiée d'hybride, puisqu'elle apporte, on le sait, un soutien technique, elle envoie des armes, elle envoie des munitions, et puis elle envoie aussi des hommes, qui officiellement ne font pas partie de l'armée régulière, mais on voit que cette stratégie a des limites. On l'a vu lors de la bataille des Baltseves en février dernier, où des journalistes russes ont pu véritablement identifier des militaires de l'armée russe régulière, des conscrits et des soldats sous contrat qui étaient venus notamment de Sibérie. Jusqu'à là, on s'en doutait de cette présence des militaires russes, mais là, on a eu des preuves concrètes. En fait, la Russie n'a pas vraiment intérêt à mener un conflit armé ouvert parce que ça l'exposerait à des sanctions internationales encore plus importantes qu'aujourd'hui. Et puis, ça pourrait ouvrir la voie à un engagement des forces d'autres pays. Il faut dire que les grands acteurs internationaux, en particulier la France et l'Allemagne, qui ont participé à l'élaboration des accords de paix de Minsk, insistent sur la nécessité de résoudre la crise ukrainienne de façon diplomatique. Eux ne veulent surtout pas entendre parler d'engagement militaire. Kiev sait de son côté qu'il n'a pas les moyens de gagner militairement. Reste bien sûr cette question de la livraison des armes qui est régulièrement demandée par le pouvoir ukrainien. C'était une question qui fait débat notamment aux États-Unis. Le mois dernier, la Chambre des représentants a voté une résolution pour demander à Barack Obama de fournir des armes létales à l'Ukraine. Le président américain est donc sous pression. S'il acceptait, les conséquences seraient bien évidemment tout autres. Et là, on pourrait s'attendre à une internationalisation du conflit. Mais pour l'instant, ça reste donc très hypothétique. Et même l'idée de ce déploiement d'une force de paix réclamée par les autorités ukrainiennes, pour l'instant, ne recueille pas vraiment d'enthousiasme de la part de la communauté internationale.
À suivre donc. Voilà Florentin pour nos explications. Merci à vous, Anastasia Bekio. Il est 10h22 à Paris. Ce sont vos questions. 33 9 693 693 70, vos questions sur l'actualité. Muriel Paradon, la correspondante permanente d'RFI à Jérusalem, est en ligne. Bonjour Muriel.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous en direct de Jérusalem. On vous appelle ce matin, on a reçu plusieurs questions après l'adhésion de la Palestine à la Cour pénale internationale, puisque depuis le 1er avril, c'est officiel, la Palestine est devenue le 123e membre de la CPI. Bonaz, je perds ma voix ce matin, Bonaz, qui nous appelle du Tchad, mais on n'arrive plus à le recontacter, il est à Moundou. Il s'étonne, il nous dit la Palestine n'est pas un État indépendant. Comment expliquer qu'elle puisse quand même adhérer à la CPI ? C'est une bonne question, Muriel.
Oui, effectivement, la Palestine n'est pas un État comme les autres, dans la mesure où ses frontières ne sont pas définies. C'est un territoire sous occupation israélienne et les frontières doivent être normalement déterminées dans le cadre d'un futur accord de paix avec Israël. Mais vous le savez, les négociations sont bloquées et les Palestiniens ont entrepris depuis un certain nombre d'années des démarches pour se faire reconnaître en tant qu'État. Et de fait, la situation a changé puisque le 29 novembre 2012, l'Assemblée générale des Nations unies a conféré à la Palestine un statut d'État observateur non membre. Le mot État est bien prononcé et ça change tout. La CPI considère désormais, la Cour pénale internationale, eh bien que la Palestine est un État en mesure d'adhérer au statut de Rome, qui est constitutif de la Cour. Rappelons que la CPI est indépendante, mais le dépositaire du statut de Rome, c'est le secrétaire général des Nations Unies. Et on comprend bien donc que dès lors que les Nations Unies ont reconnu à la Palestine ce fameux statut d'État observateur non membre, et bien la CPI naturellement reconnaît la Palestine comme État et c'est pour ça qu'elle peut adhérer à la Cour.
Voilà, et c'est officiel donc depuis le début du mois. Autre question, toujours sur cette adhésion, Jean Bédel, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à Myriam.
Vous êtes à Kinshasa, en République démocratique du Congo, soyez le bienvenu.
Merci, oui Juan, moi aussi je m'intéresse à la question de la Palestine. Alors, j'aimerais savoir quels sont les moyens dont dispose aujourd'hui la Palestine pour faire juger le dirigeant israélien. Dès lors, on sait que l'Israël n'est pas parti au traité de la Cour pénale internationale.
Ah, là aussi, question pertinente, Muriel Paradon. La Cour pénale internationale est compétente hein, pour se prononcer sur les crimes commis sur le sol, sur le territoire de ses États membres ou concernant les ressortissants de ses États membres. Or, Israël n'est pas signataire du traité de Rome et on sait bien que les Palestiniens veulent obtenir de la CPI qu'elle poursuive les Israéliens.
Oui, mais alors précisons que si la Palestine, État membre, veut faire des poursuites contre Israël ou en tout cas déférer des situations, des cas à la Cour pénale internationale pour qu'il y ait des poursuites contre des Israéliens, ce n'est pas nécessaire qu'Israël soit État membre puisque ces poursuites seront engagées sur des crimes éventuels qui auraient été commis sur le sol d'un État membre en Palestine. En fait, ce qui intéresse les Palestiniens, ce sont les crimes commis à Gaza, par exemple, ou en Cisjordanie. Et donc, dès lors que ces crimes ont été commis sur le territoire d'un État membre, sur le territoire de la Palestine, eh bien la Cour peut engager des poursuites sur n'importe quelle personne, de n'importe quelle nationalité, y compris évidemment des Palestiniens. Pour résumer, alors ce sont des questions un peu techniques de droit, on peut engager des poursuites pour des crimes soit sur un ressortissant d'un État membre, soit sur quand les crimes ont été commis sur le territoire d'un État membre. Ouais. Donc théoriquement, les dirigeants israéliens peuvent être poursuivis. Alors après, vous savez, il y a des procédures qui sont très longues, hein, ça ne va pas être pour demain. Les Palestiniens doivent soumettre ce qu'on appelle des situations, ça revient un petit peu pour faire court à déposer des plaintes. Mais rappelons que c'est au procureur de la CPI de décider ou non d'ouvrir des enquêtes et d'inculper le cas échéant des personnes.
Et pour l'instant, la procureure de la CPI, hein, Fatou Bensouda, n'a ouvert aucune enquête formellement. C'est ce qu'on apprend donc de la Cour pénale internationale. Il semblerait en tout cas, Muriel Paradon, que voilà, pour l'instant, l'autorité palestinienne n'a pas envie de déposer une plainte dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. On a l'impression que les Palestiniens veulent prendre le temps.
Oui, absolument. Vous savez, l'arme de la CPI, c'était vraiment leur bombe atomique, comme ils disaient. Vous allez voir ce que vous allez voir si les choses continuent telles qu'elles sont, l'occupation et tout ce qu'il y a autour, on va adhérer à la CPI. Maintenant qu'ils ont adhéré, ils ont plus grand chose pour lutter, donc ils attendent un peu le moment opportun pour pouvoir effectivement soumettre des situations et donc déposer en quelque sorte des plaintes, mais ils attendent effectivement un moment qui les arrange. Petite précision quand même par rapport à ce que vous avez dit, la procureure a ouvert un examen préliminaire, hein, c'est pas une enquête encore, mais elle a déjà ouvert une enquête préliminaire dès lors que la Palestine avait adhéré, pour examiner la situation générale en Palestine, voir si des crimes ont été commis, voir si la compétence de la Cour peut s'exercer et si une enquête peut être ouverte. Donc, il y a effectivement, pas encore des procédures formelles, mais un début d'examen, parce que la procureure peut s'autosaisir, effectivement, d'une situation.
Ouais. À suivre donc. En tout cas, ce qui était surprenant, en deux mots, Muriel, avant de vous libérer, c'est que l'adhésion de la Palestine à la CPI au début du mois n'a pas suscité de grandes scènes de liesse dans les rues de Ramallah. On s'attendait à voir peut-être tous les Palestiniens descendre dans la rue, et finalement, ça n'a pas vraiment été le cas. Ça a surpris ou pas?
Non, vous savez, les Palestiniens sont très désabusés hein, de ce qui se passe. Ils ne croient plus en grand-chose, malheureusement. Et puis, la CPI, effectivement, tant qu'il n'y a pas de plaintes qui ont été déposées, ils savent aussi que c'est long, etc. Eux, ce qu'ils voudraient voir, c'est leur situation au quotidien s'améliorer, c'est-à-dire pouvoir circuler plus librement. Ça, c'est toujours très difficile. Ne pas être arrêté à tout bout de champ. Demain, on va célébrer la journée des prisonniers palestiniens. Il y a 6000 prisonniers en Palestine. Pouvoir ne pas être humilié quotidiennement. Il faut rappeler quand même que la Palestine est un territoire sous occupation et que la vie est très difficile en Cisjordanie comme à Gaza ou à Jérusalem-Est. Donc la CPI, pour eux, c'est un peu loin, c'est technique. Et ce qu'ils voudraient voir vraiment, c'est leur quotidien s'améliorer, la fin de l'occupation tout simplement, et ça, c'est pas pour demain.
Merci Muriel Paradon, en direct de Jérusalem. D'autres questions à la rédaction demain? Vous connaissez le principe, c'est très simple. Vous nous appelez 339 693 693 60. Nous notons vos questions, vos numéros de téléphone et nous vous rappelons évidemment pour le direct du lendemain, et le standard reste ouvert tout au long de la journée. À suivre dans un instant le point complet sur l'actualité et dans 10 minutes vos réactions sur les violences xénophobes qui secouent en ce moment l'Afrique du Sud et principalement la ville de Durban. 6 morts déjà, ce sont les chiffres officiels, alors que les réseaux de mouvements solidaires aux immigrés parlent de beaucoup plus de morts sur place. 33 9 33 693 693 70.
C'était Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et paiement mobile.